Donc, nous recommençons le sujet de la famille. On continue là-dessous. Nous sommes dans Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. Je ne sais pas combien de temps je vais continuer ce parcours de la Bible. Ça fait déjà, quoi, 3 mois et on est toujours dans la Genèse. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans les familles dans la Bible, n'est-ce pas? Et donc, ça nous ouvre les yeux pour la réalité de la vie. Nous allons lire Genèse chapitre 21, à partir du verset 1 jusqu'au verset 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Et elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. » Verset 9. Sarah vit rire le fils de Agar, le fils que Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole des plus fortes aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est de ta postérité. Verset 14. Abraham se leva du bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sur un des arbrisseaux et elle s'assoit vis-à-vis à une portée d'arche, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de la main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Donc on a ici dans cette histoire le récit de la naissance d'Isaac et aussi de la renvoi de Agar et d'Ismaël. Donc le message global aujourd'hui, donc je l'ai intitulé le concubinage. Mais on voudrait voir déjà un petit arrière-plan. Donc regardez dans chapitre 21 verset 4. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Donc Dieu avait fait des promesses. Et enfin, cette promesse s'est réalisée, c'est l'enfant Isaac. Et quand il avait 8 jours, ce qui sera la règle par la suite, donc dans le judaïsme, le 8e jour, il était circoncis. Et donc, il faut qu'on se souvienne que Dieu avait conçu la famille selon son plan, un homme, une femme et, selon la bénédiction de Dieu, les enfants. Et les parents, donc, sont censés élever ou éduquer leurs enfants. Ils ont cette responsabilité. C'est possible que nous emmenons nos enfants à l'école, mais la responsabilité de nos enfants reste toujours avec les parents. Et donc, dès le début de la vie, les parents doivent viser, ils doivent diriger l'enfant vers l'adulte que cet enfant deviendra. Parce que, évidemment, si l'enfant ne meurt pas, l'enfant va devenir un adulte, une partie de la société. Et cette éducation, cette discipline, commence tout de suite. Toujours, la discipline, c'est pour le bien de l'enfant. Mais aussi, il faut respecter l'autorité des parents. Donc, quand on discipline l'enfant, donc il ne faut jamais discipliner vos enfants dans la colère. C'est dans la colère qu'on risque à faire des bêtises. Donc, il faut toujours se régler, se discipliner, toujours en exprimant la bonté envers l'enfant, ce qu'il a besoin, pour qu'il devienne plus tard un bon citoyen, une bonne partie de la société. On était dans le centre commercial hier, à Paris 2, et il y avait un enfant qui n'a pas eu ce qu'il voulait. Et cet enfant n'avait pas plus que 2 ans. Et il s'est jeté par terre sur le front. Après, il s'est jeté par terre sur le dos. Il faisait des cris. J'avais eu du mal à entendre ma femme dans le téléphone parce que cet enfant qui était aussi loin que Jean-Louis, là, il était loin de moi. C'est quoi, 10 mètres? Eh bien, il criait. Et puis, la grand-mère, elle est partie. Elle ne voulait pas rester près de cet enfant. Et puis, la mère et la tante étaient à peu près de moi à José, donc 5 mètres de cet enfant. Et puis, c'était la petite sœur de 5 ans qui essayait de relever l'enfant. Il était un terreur. Et si ça ne change pas, il va être un criminel. Hein? Ça c'est vraiment honteux qu'un enfant, alors j'ai dit, j'aurais dû venir à cet enfant dire, knock it off, kid. Et avec il aurait été choqué par la langue et il aurait peut-être arrêté. Bon, je ne sais pas combien de temps ça a duré parce que moi je suis parti. Hein? Mais ça ne devrait pas arriver. Hein? Mais cet enfant était égoïste. Il pensait que tout le centre commercial de Paris 2 était en train de tourner autour de lui. Ce qui n'est pas le cas. Hein? Donc, il faut qu'on élève, il faut qu'on éduque nos enfants. Et il ne faut pas attendre qu'ils ont 5 ans à commencer, ni 2 ans. On a vu 2 ans hier. Hein? Non, il faut commencer déjà dans l'éducation des enfants. Et là, on voit qu'ils ont déjà commencé à 8 jours. Ils ont commencé la formation de cet enfant dans le cheminement que cet enfant va prendre à travers sa vie. Parce qu'ils l'ont circoncis, ce qui est un acte religieux. C'est un rite, d'accord? Nous ne faisons pas ça. Ça n'est pas une partie du christianisme. Par contre, dans la pratique catholique et dans beaucoup des églises protestantes, ils pensent, donc c'est pas juste de penser, mais c'est ça qu'ils pensent, ils pensent que le baptême des bébés a remplacé la circoncision. Donc, quand on a un tout petit bébé, on va mouiller le bébé avec quelques gouttes et on dit que voilà, on a baptisé le bébé. C'est pas vrai. Mais ils ont suivi cet esprit de l'Ancien Testament en faisant que la circoncision est devenue le baptême d'un enfant. Mais qu'est-ce que nous faisons chez les baptistes? Qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, pardon? Nous faisons la présentation, justement. Donc, la présentation, évidemment, c'est déjà l'attitude des parents, n'est-ce pas? Nous avons présenté combien d'enfants, Sophie? 2 ou 1? 2. Hein? Parce que, évidemment, on va élever tous nos enfants, mais il n'y avait plus d'église. Donc, c'était en esprit, en attitude que nous avons présenté nos autres enfants, mais l'idée, c'est quand on présente nos enfants, on ne va pas les mouiller, on ne va pas les baptiser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir devant l'église, on va dire à l'église que moi, je vais élever mon enfant dans la voie de Dieu. C'est une décision que je voudrais faire. Donc, nous élevons nos enfants dans la voie de Dieu. Aussi, nous sommes en train de dire à la communauté chrétienne, nous lui serons de bons exemples, n'est-ce pas? Donc, en parole, à ce que nous regardons à la télévision, dans nos vêtements, dans notre comportement de tous les jours, dans nos fréquentations, et dans toutes les façons, nous serons pour cet enfant un bon exemple. Aussi, on est en train de dire, quand nous présentons l'enfant, que nous voulons inculquer la connaissance de Dieu. Et cette formation, dont j'ai dit, avec Isaac, ça a commencé déjà, quand il avait uniquement 8 jours, n'est-ce pas? Donc, cette inculcation de la connaissance de Dieu va avoir lieu à la fois dans le culte familial que le culte que nous faisons en communauté. N'est-ce pas? Parce que là, ce n'est pas le christianisme. Ça fait partie du christianisme. Quand vous êtes là dans la salle, à avoir la communion fraternelle avec les frères et sœurs en Christ, ici dans l'église, c'est bien. C'est important. Mais ce n'est pas tout. Hein? C'est dans notre vie quotidienne, à la maison. Et la chose qui est le pire, c'est qu'on vienne souriant et bien à l'église, et à la maison, c'est que la frustration et la colère. Parce que les enfants, ils ne peuvent pas comprendre ce problème. Et donc, ils voient l'hypocrisie. Et ça fait du mal aux enfants. OK? Donc, on va faire attention à ce sujet-là. Donc, ce que je vais montrer, c'est 4 leçons spirituelles à travers de ce chapitre. Donc, j'ai voulu déjà toucher sur la question de la présentation de nos enfants à Dieu, donc dire aux autres chrétiens, comme à Dieu, que je veux élever mon enfant dans les voies de Dieu. Mais aussi, dans les petits détails, on pourrait se poser la question, est-ce que les chrétiens ont le droit à faire la fête? Et il dit, dans le verset 8, « L'enfant grandit, fut sévré, et Abraham fut un grand festin le jour où Isaac fut sévré. » Donc, évidemment, il y a les moments dans la vie où on fait la fête. On va faire la fête de Noël, par exemple. Et on va veiller pour la nouvelle année. Mais on va toujours faire ça d'une manière différente que le monde. Hein, on ne va pas s'enivrer, on ne va pas faire les mauvaises choses, etc. On va rester tranquille, on va faire la fête, mais en même temps, on ne va pas faire les bêtises. N'est-ce pas? Donc, si quelqu'un se pose la question, oui, c'est possible, pourquoi pas? Hein, Abraham a fait un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Regardez maintenant dans le chapitre 21, verset 10. Elle dit à Abraham, chasse, excusez-moi, verset 1. Ah, je me suis trompé là. C'est chapitre 21 et verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Donc, première leçon spirituelle, c'est que Isaac était le fils de la promesse de Dieu. Dieu avait fait une promesse et Dieu garde sa promesse. Dieu garde toujours ses promesses. OK? Aussi, donc, il faut savoir que Isaac était le fils légitime d'Abraham. Il était le fils ayant droit. Il était le fils propriétaire de tout ce qui appartenait à Abraham. Et Abraham était un homme fort, riche. Et donc, Isaac était l'héritier de tous les biens d'Abraham. Aussi, nous avons vu dans le verset 12, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. c'est-à-dire Isaac seul, était le fils par qui devait naître la descendance qui était destinée à bénir le monde entier. C'est-à-dire uniquement Isaac sera l'ancêtre du futur Messie, du futur Christ. Ce n'était pas Ismaël. Ce n'était pas ses autres enfants, parce qu'Abraham a eu d'autres enfants par d'autres concubines, n'est-ce pas? Donc, et c'était que Isaac, qui était son seul et unique fils légitime. Ça, c'est la première leçon spirituelle. Seconde leçon que nous pouvons apprendre ici, c'est dans les versets, justement, 10. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Donc là, on parle d'Ismaël. Ismaël était fils de la concubine, fils de la chair. Et donc, dans l'épître aux Galates, il y aura, de ce texte ici, il y aura une discussion. On utilise cet événement historique pour expliquer entre ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Et nous, étant enfants de Dieu, nous avons été libérés de l'esclavage et nous avons l'esprit de Dieu en nous, l'esprit de la liberté, et nous sommes les enfants adoptifs de Dieu. On est héritiers. Tandis que Agar est présentée comme la femme par qui il a eu un enfant, c'est vrai, mais c'était de la chair, c'est-à-dire c'était de ce qui est naturel et qui n'avait rien à voir avec Dieu, ni avait rien à voir avec la vie spirituelle. D'accord? Donc Ismaël était fils de la concubine, fils de la chair. Alors Ismaël, bien que aimé par son père, hein, parce qu'on voit quand Sarah voulait chasser la servante et son fils, eh bien, Abraham était peiné. Parce que c'était son fils. Et il aimait son fils. Donc, il ne faut pas penser qu'Abraham avait un mépris pour Ismaël. Non, non, non. Il aimait Ismaël. Néanmoins, son fils Ismaël n'avait aucun droit. Il était fils d'un esclave. Et étant fils d'un esclave, il était esclave. Il n'avait aucun droit. Aussi, avant sa mort, Abraham a fait des dons aux enfants de ses concubines, mais seul Isaac a hérité de son père. J'ai oublié d'écrire le verset, je crois que c'est chapitre 25. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, c'est chapitre 25 et au verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Donc, le point ici, c'est que les enfants des concubines, les enfants illégitimes, ils n'ont pas les mêmes relations, ils n'ont pas les mêmes traitements que le véritable enfant. Et on voit ça dans le traitement. Même les parents, quand l'enfant est illégitime, les parents ne disciplinent pas correctement. Quelque part, ils pensent en faisant moins de discipline, l'enfant va les aimer plus. Donc, c'est un problème à la fois pour les parents et pour les enfants. Donc, l'enfant illégitime n'a jamais la même expérience d'enfance que les enfants légitimes. Et vous avez certainement lu les histoires, etc., à propos d'un enfant qui était illégitime, qui est adopté par la suite dans la famille, et les autres enfants ne l'acceptent même pas. Hein? Parce que c'était pas Ce n'était pas fait comme il fallait faire. Donc, nous rendons les vies complexes. D'accord? Et donc, il faut voir déjà, procréer des enfants illégitimes, c'est de vouloir, en fin de compte, propager le mal. Ce n'est pas que les enfants sont mal. Ce n'est pas la faute des enfants. Mais c'est nous qui, quand on fait les enfants qui n'ont pas une maman et un papa, eh bien, l'enfant sera traité différemment et donc aura un comportement futur en tant qu'adulte qui sera donc différent. Et ce que nous faisons en faisant des enfants sans qu'ils ont des parents normaux, eh bien, on désavantage la vie de cet enfant. Et ce n'est pas la faute de l'enfant. Attention, je ne dis pas ça, mais c'est notre faute, hein, à nous, les parents. Donc, il y a des options. Évidemment, les parents peuvent garder leurs enfants, n'est-ce pas? Un parent, donc, avec les enfants illégitimes, soit la mère, soit la mère, soit le père, peuvent garder les enfants. Ou, ce que l'on fait, surtout aujourd'hui, c'est quand la dame est enceinte, et puis, évidemment, le garçon ne veut pas un bébé, et puis, va avorter ton enfant. Et donc, il y a beaucoup d'avortements, mais ce n'est pas la solution. Avortement, c'est un meurtre, et donc, un péché. Il ne faut pas avorter. Si on ne veut pas garder, et on ne veut certainement pas avorter, que faire? Il y a aussi l'adoption. On peut aussi faire adopter un enfant. Il y a beaucoup de parents dont le couple ne peut pas avoir d'enfant et ils seront tellement contents d'adopter. Mais en France au moins, c'est très difficile à adopter un enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose dans les règles qui rend la chose difficile. Mais c'est possible. Donc, il faut garder ces choses dans les possibilités, dans l'esprit des choses. Troisième leçon spirituelle, c'est dans les versets 14 à 16. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il donna à Agar et plaça sur son épaule, il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Donc il faut comprendre que Isaac, il a, il me semble, 14 ans. Donc ce n'est pas un bébé. Et c'est pour ça que tout à l'heure, il va dire, prends-le par la main. Parce que ce n'est pas un tout petit bébé, hein, c'est un garçon de 14 ans. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arche, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle alla la voix et pleura. Donc évidemment, elle était triste. Hein? Et on peut compatir avec elle. Hein? Elle vient d'être jetée de sa maison. Elle aurait pu avoir certaines espérances. Ah, mais le grand homme de la maison, il m'a pris. Je suis sa peut-être préférée. Elle était bien plus jeune que sa maîtresse, hein, que Sarah, qui avait 90 ans. Et elle avait peut-être 15 ou 20 ans. Qui sait quel âge qu'elle avait. Hein? Au moins quand elle a eu l'enfant, là, elle a peut-être 35 ans, je ne sais pas. Et donc, elle pleura, parce que toutes ses espérances étaient gâchées. Hein? Les hommes, ils sont rapides à donner des espérances, ou de faire espérer des choses. Mais à la faire, c'est une autre question. Hein? Et Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui, « Qu'as-tu, Agar ?» C'est presque drôle. « Mais qu'est-ce que tu as, hein? Pourquoi il a dit ça ?» Parce qu'il avait fait des promesses à cet enfant. Il avait fait des promesses à Abraham. Donc, elle devait croire que Dieu allait s'en occuper. Hein? Mais au lieu d'avoir confiance dans ses douleurs, parce que c'est vrai, hein, dans les tristesses, les douleurs, dans la misère, hein, elle avait perdu la vision que Dieu avait donnée concernant cet enfant. Et donc, elle pleura. Et donc, l'ange dit, « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le désert, dans le lieu où il est. » Donc il dit, « Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. »
Ok, donc Dieu lui rappelle ce qu'il avait déjà dit, hein, pour que la dame ne soit pas entièrement déprimée. Donc rapidement, on voit que Agar était concubine. Elle n'était pas femme légitime d'Abraham. Agar n'avait aucun droit. Hein? Elle avait des espérances, comme on a déjà dit. Elle avait des espérances que ça allait se faire comme ceci, comme cela. Elle allait devenir très riche et tout ça. Qui sait ce qu'elle avait pensé? Mais le fait est que quand la maîtresse de la maison a dit, tu vas jeter cette dame hors de la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie. Elle est partie. Il s'éleva de bon matin. Il a pris de l'eau. Et il a pris la femme et l'enfant et il dit, voilà, prenez la route. C'est tout. Elle n'avait aucun droit. Ça va tout le monde, vous comprenez? Et donc, elle était renvoyée. Donc, vous savez, le free sex, hein, l'union libre, la libération sexuelle depuis quelques décennies et tout ça, le concubinage, ils n'ont pas amélioré la position de la femme. Ils n'ont pas amélioré la position de la femme. La situation de la femme moderne est plus précaire que la femme mariée. Je n'ai pas dit que les femmes mariées sont toujours bien. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que, en fait, on a rendu la femme plus précaire qu'auparavant. Avant, elle avait des droits. Maintenant, elle va vivre avec tel homme, et puis qu'est-ce qu'elle a? Elle dépasse, elle passe un an, deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans. Elle n'a pas d'héritage, elle n'a rien du tout. On ne sait pas si on va le garder, si on va le rejeter. Bon, c'est vrai que l'homme n'a pas la promesse non plus. Mais c'est souvent la femme qui va subir. Vous voyez? Donc, la position de la femme, donc je vise la femme, et c'est pas pour opprimer la femme que j'ai dit ça. La faute, c'est la faute des hommes. Hein? Mais j'ai dit que la position de la femme est aussi, sinon pas plus précaire qu'auparavant. C'est presque toujours la femme qui paye, c'est presque toujours la femme qui souffre, c'est presque toujours la femme qui porte les conséquences. Et l'homme, il va commencer une nouvelle vie, voilà. Tout simple. Les hommes manipulent pour leur bénéfice égoïste. Je ne dis pas tous les hommes, mais je parle aux hommes en général, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les filles de 12 ans dans les pays scandinaves qui demandent que l'âge de consentement soit baissé à 12 ans. Ce n'est pas les filles, ce n'est pas les petites filles qui demandent ça. Qui est-ce qui demande? Ce sont les hommes qui veulent régulariser ou légitimiser leur pédophilie. Ce n'est pas la femme qui demande ça. Hein? Alors, les femmes, maintenez votre dignité de femme, de votre dignité humaine. Ne cédez pas aux propositions perverses des hommes. Il faut dire non. La femme a toujours le pouvoir et le droit de dire non. Et l'homme doit respecter ça. Je ne dis pas qu'il respecte toujours. Mais quand la femme ne dit pas non, il n'a rien à respecter. Donc, utilisez votre pouvoir. Maintenant, on va tourner à la leçon spirituelle numéro 4. Et encore, c'est chapitre 21, verset 1. Et après, donc, le verset 13, 17 et 18. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point,
car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de la main, car je ferai de lui une grande nation. Donc, je vous rappelle de la première leçon spirituelle, c'est que Dieu garde sa parole. Vous pouvez toujours compter sur Dieu. Il ne faut pas compter sur vous-même, hein, parce que nous ne sommes pas très capables en nous-mêmes, nous ne sommes pas très puissants, mais Dieu est le Tout-Puissant. Il faut toujours savoir que Dieu peut vous aider. Il garde sa parole. Aussi, parce qu'il faut savoir que c'était un péché, n'est-ce pas? Quand Abraham a couché avec Agar, il n'a pas dit, « Oh, ben, Sarah, tu sais, ça ne serait pas bien. » Ah ben non, il a dit, ah, « Bien sûr, si tu penses que je pourrais faire un enfant par ça, ma servante, ben, pourquoi pas ?» Et donc, voilà, il y a un enfant. Voilà. Et c'était un péché. C'était l'adultère. Bon, c'est vrai que Sarah a proposé. Et le chef de la famille n'a pas dit, « Ah ben, Sarah, ça c'est ridicule, pourquoi tu veux que je fasse ça ?» Il aurait pu le faire. Il aurait dû le faire. Ah non, il a dit, « Ok. » Ça va, pourquoi pas?
Il a voulu lui faire plaisir.
Ah bah oui, il voulait faire plaisir, pourquoi pas? Donc, regardez dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Vous savez, l'obstacle qui nous empêche de progresser, c'est que nous ne reconnaissons pas nos péchés. Nous ne reconnaissons pas nos fautes. Et donc, quand on n'admet pas nos fautes, Matthieu chapitre 9, quand nous ne reconnaissons pas nos fautes, Dieu ne peut pas les enlever. Et donc, on les porte avec nous et toutes les conséquences, on ne peut même pas changer les conséquences avant qu'on a la bénédiction de Dieu par son pardon. Et qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 9 et le verset 2? Bon, je vais lire donc, « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Bon, ça a causé un grand brouhaha. Les gens disent, « Mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu ?» Ben, c'est vrai. Personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu. N'est-ce pas? Et Jésus, il est Dieu devenu homme. Il pouvait. Et donc, il a dit à cet homme, « Tes péchés sont pardonnés. » Et donc, on peut savoir que quoi que soit nos péchés, parce que je ne veux pas laisser ça, ah ben, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, et puis tant pis si vous l'avez fait. Ah ben non, il y a de l'espoir. Si nous avons péché et qui n'a pas péché, eh bien, si nous avons péché, Dieu peut pardonner nos péchés, mais il faut qu'on reconnaisse nos péchés et demande pardon. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a déjà payé pour tous nos péchés. Et Dieu pardonne. Amen. Dieu pardonne. Et ça, c'est l'espoir qu'on a. Et avec ce pardon, on peut recommencer, on peut se relancer dans la vie, mais non pas avec un grand poids en disant toujours, « Oui, c'est vrai, j'ai fait ce mal-là. » Dieu a oublié. Et ça ferait bien que vous l'oubliez aussi, hein, dans la possibilité, hein, dans la mesure de ce qui est possible. Et puis, à savoir aussi, dans le texte qu'on a lu en Genèse chapitre 21, dans Genèse, retournant dans Genèse 21, c'est que, en fait, ce qu'on voit, c'est que Dieu prend soin des malheureux. Hein? Parce que Agar, elle était malheureuse. Hein? Oh oui, ben son fils Ismaël est devenu le père des Arabes, et voilà tous les problèmes que nous avons dans le monde. Bon, ben, ça c'est vrai. Mais la personne même, Dieu aimait ces deux personnes. Hein? C'est vrai qu'elle était esclave. Et la Bible nous encourage jamais à devenir des esclaves. Mais plutôt de devenir la femme libre, l'homme libre, le patron, si vous voulez. Hein? Dieu ne nous demande jamais à descendre dans la vie, mais qu'on puisse être libre pour agir librement devant lui, pour faire ce que Dieu veut de nous. D'accord? Eh bien, cette dame est maintenant libre. Elle était émancipée. Abraham l'avait mis à la porte. Tu es libre, va prendre ta propre vie.
OK? Elle est, c'est vrai aussi qu'elle était misérable parce qu'il n'a pas donné un paquet d'argent quand il a mis à la porte. Hein? Qu'est-ce qu'il a donné? Une outre d'eau. Ben, c'est rien, ça. Après le service, hein, qu'elle lui a rendu. Il n'a rien donné qu'un peu d'eau. C'était pas très gentil. Hein? Donc, elle est partie comme ça et elle pleurait. Elle pleurait. Et je pense qu'on devrait pleurer pour la situation que beaucoup de femmes subissent. Hein? Il y a beaucoup de malheur, les dames dans le travail, etc., qui doivent subir les mauvais traitements des patrons et tout ça. Je ne vais pas entrer dans la chose, mais quand j'étais à Argentan, les histoires qu'on me donnait, découpées des journaux, hein, ce que les femmes subissaient de la main des patronnes et des maris et des voisins et toutes les choses, eh bien, on devrait. Hein. Les hommes peuvent être très méchants. Mais je dis aux femmes, ayez confiance en Dieu. Dieu, il vous aime. Ayez confiance en Dieu. Pour les femmes, c'est vrai aussi pour les hommes, mais je parle aux femmes maintenant. Faites ce qui est juste. Faites ce qui est juste, ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Pour être en règle avec Dieu. Il y aura des conséquences, évidemment. Mais laissez les conséquences de la justice entre les mains de Dieu. Abraham a mis Agar à la porte. Abraham était un homme de foi. Il savait, parce que Dieu avait dit au verset 13, « Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Donc Abraham savait, comme il savait plus tard, on va voir ça la semaine prochaine, qu'il pouvait tuer Isaac et Dieu allait le ressusciter, parce qu'il avait fait une promesse en ce qui concerne ce garçon-là. Eh bien, c'était la même chose ici. Dieu avait fait une promesse en ce qui concerne Ismaël. Et donc, il a mis la femme et son enfant à la porte, sachant que Dieu allait s'en occuper. Et il peut le faire. Et là, il faut avoir confiance. Il faut attendre les choses. Il faut réclamer les choses de la part de Dieu. Donc, je revois les quatre points. Isaac était fils légitime et donc héritier. Second point, Ismaël était fils de la chair, de la concubine, et n'avait aucun droit. Troisième point, Agar était concubine et n'avait aucun droit. Quatrième point, Dieu prend soin des malheureux. Pardonne et il prend soin des malheureux. Amen. Amen. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole. C'est vrai que cette histoire ce matin, c'est très triste. Et on voit comment souvent les hommes manipulent et servent d'une manière qui augmente le malheur dans le monde. Et Seigneur, nous voulons que tu nous donnes sagesse à nous et à chaque homme, chaque femme dans notre communauté, que nous puissions non pas faire des erreurs, de faire des décisions qui portent des conséquences néfastes, mais que tu nous fortifies et donnes sagesse pour savoir comment agir, même avec un passé difficile ou problématique, mais de faire ta volonté, d'avoir ta bénédiction. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.